Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants, L'Inconvénient et Urbania. Au programme, j'ai passé une journée avec la jeune Serge Bouchard. Et Rage Applying, tout faire pour changer d'emploi. Bonne écoute!
J'ai passé une journée avec le jeune Serge Bouchard. Un texte de Jean-Philippe Plot, paru à l'hiver 2021-2022 dans le numéro 87 de la revue L'Inconvénient. À Mathieu Fournier. Voici l'histoire d'un épisode de l'émission de radio C'est fou que j'ai co-animé avec Serge Bouchard pendant plus de 10 ans sur les ondes de Radio-Canada. Nous sommes en juin 2017. Assis dans notre bureau au 13e étage de la vieille tour de Radio-Canada, le recherchiste de l'émission, Mathieu Fournier, Serge et moi, cherchons une idée originale pour terminer cette saison de radio. Dans le bureau d'en face se trouve mon meilleur ami, Charles Plourde. Il s'apprête à partir sur le terrain, comme le font les anthropologues, pour réaliser son prochain documentaire radio. Il vient alors de terminer une série en 3 épisodes sur les Jeux olympiques de Montréal de 1976. Serge et lui échangent à propos de la métropole, du stade olympique, de la puanteur de l'est de la ville. Et Serge de répliquer « Cette odeur, c'est ma Madeleine de Proust. Ça sent si bon. » Tout le monde rit. Même Joël Lebigot, qui passe dans le corridor au même moment et s'exclame « Ça pue dans l'est, Bouchard! » J'attrape le stylo de Serge et je note dans le dossier de recherche de l'émission qu'on vient tout juste d'enregistrer. Montréal, tour de ville en char avec le mammouth et des micros. Charles sort de son bureau, ferme la porte et nous salue. Je regarde Serge et je lui dis « Si pour la dernière de la saison, on amenait l'émission en voiture et on partait sur les traces de ton enfance... » Une sorte de tour de ville guidée par Serge Bouchard. Tu nous fais visiter les lieux que tu veux. Silence. Long silence. Les yeux du mammouth s'allument. Il regarde par la fenêtre de notre bureau qui donne sur le fleuve et le pont Jacques-Cartier. Je devine qu'il entend déjà le moteur de sa Honda gronder, qu'il repasse l'idée dans sa tête en se disant « Parler de Montréal au volant de ma voiture pour la radio ». Sa réponse, Jean, Philippe, Plot. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la prochaine saison de radio au complet avec cette belle idée? Et cet épisode-là, ce serait le pilote. Peu importe, c'est oui. Dans ses conférences ainsi qu'à la radio, Serge lançait souvent en guise de boutade qu'à l'âge de 40 ans, il était déjà fatigué. Manière de dire que sa vie avait jusque-là charrié de la belle durée. C'était du même coup un hommage à l'un de ses philosophes préférés et grand penseur du rapport au temps, Henri Bergson. En 2017, la phrase commence à prendre un autre sens. Serge espace alors ses engagements, car la longue route lui fait mal au dos, aux genoux aussi. Les jours d'enregistrement de l'émission « C'est fou », nos lunchs à la cafétéria de la vieille tour sont ponctués, à un moment ou à un autre, par cette phrase « Je vous aime beaucoup, les gars. Plus que vous le pensez, mais j'aimerais tellement être assis en ce moment dans ma Honda pour rouler vers Sudbury, Mangan ou Murdochville, avec un café puis du Johnny Cash en boucle, et une seule pause pour pisser. » Dans ces circonstances, ce projet d'une journée à rouler dans Montréal s'annonce grandiose. Il est le produit de remplacement par excellence, rouler 8 heures avec la possibilité de rentrer à la maison si nécessaire, ou de faire quelques arrêts au puits. Le matin de l'enregistrement, plusieurs minutes avant l'heure de notre rendez-vous, Serge stationne sa Honda fraîchement lavée devant la tour de Radio-Canada. Dans la case pour handicapés qu'il se plaît à nommer « la place des infirmes ». Douce ironie et clin d'œil à ce vieux mot qui ne se dit plus. « Content de vous voir, les gars. Je sais qu'on a prévu de commencer notre périple au parc du bois de la réparation, mais je vous ai préparé un avant-match. Si le réalisateur veut bien me permettre cette petite incartade. » Serge se tourne vers moi. Je suis sur le siège du passager. Il me regarde par-dessus ses lunettes, sourire ironique à la Vladimir Jankélévitch. Il n'attend aucune réponse. « Bon, on y va ?» Serge relève son chapeau du pouce. Il me demande de prendre sa canne et de la déposer à l'arrière. Il est prêt à rouler sur les chemins de travers de Montréal. Je l'imagine en chauffeur d'autobus, fonction à laquelle il vouait le plus grand des respects. Il est beau, le mammouth au volant de sa voiture à remontée du temps. Il s'engage sur la rue Notre-Dame en direction du bout de l'île, qui est la réponse que Serge donnait toujours avec joie à la question suivante « D'où venez-vous, Monsieur Bouchard ?» Il commente plusieurs rues de haut passage, Bourbonnière, Viaud, Clément, Dixon. Ici, une blonde d'adolescence. Là, un mauvais coup de jeune adulte. Plus loin, un souper mémorable dans une pataterie avec ses chums à l'époque du collège. À la hauteur du port de Montréal, il immobilise sa Honda dans l'entrée, face à la guérite. Il retire ses mains du volant. Il nous dit « À la fin de sa vie, mon père travaillait ici. Il passait ses journées à observer l'humain derrière ses habits de débardeur. Enfant, j'aurais aimé faire ce travail-là. À la place, je suis devenu anthropologue. » Et moi d'ajouter « Bah, ça revient au même, Serge. » Rire de mammouth. « T'as bien raison, Jean. Philippe. Plo. » Et la Honda reprend son chemin, rue Notre-Dame. Serge ne parle pas lorsqu'on roule. Le chauffeur est à l'œuvre. Au feu rouge, c'est l'homme de radio qui prend le relais. Le micro s'allume alors, et les deux auditeurs privilégiés que nous sommes, Mathieu et moi, écoutent leur programme en circuit fermé. La voiture vient de s'arrêter à l'endroit où Serge avait décidé que nous amorcerions notre périple. Il nous demande de regarder le bâtiment en face. Une bâtisse moderne, sans âme, froide, fonctionnelle. Ici, les gars, j'ai pris l'autobus tous les matins de mon adolescence pour me rendre au collège Mont-Saint-Louis, au centre-ville, sur la rue Sherbrooke. Juste là, c'était le terminus d'autobus Georges V. Ils l'ont démoli dans les années 90. C'est toute la mémoire des autobus bruns et beiges qui s'est envolée, ainsi que les rêves de mes chums pis les miens. Quand on arrivait ici, on venait de franchir un long tunnel depuis le bout de l'île, le tunnel de la pauvreté. Puis là, on embarquait dans un autobus Canadian Car pour aller étudier avec le monde sérieux. La mémoire n'est pas contenue dans les lieux, mais les lieux évoquent la mémoire. C'était un maudit beau terminus. J'aurais aimé ça vous le montrer. Vous écoutez, j'ai passé une journée avec le jeune Serge Bouchard. Un texte de Jean-Philippe Plou, paru à l'hiver 2021-2022 dans le numéro 87 de la revue L'Inconvénient. Pour l'écriture de ce texte, j'ai entré le nom « Terminus Georges V » dans le moteur de recherche. Un endroit magnifique, en effet. L'une des premières photos qui s'affiche montre un tramway dont le nez, en avant, porte une grosse publicité de Paris Pâté, en solde cette semaine-là chez Steinberg. Je souris en me rappelant que Serge parlait régulièrement à qui voulait l'écouter de son amour inconditionnel du Paris Pâté. L'avant-match est maintenant terminé. Nous quittons cet endroit remarquablement oublié pour nous diriger vers le parc du bois de la réparation situé dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Serge tenait à visiter ce lieu où l'on trouve le plus vieil arbre de Montréal, un chêne âgé de 360 ans à ce moment-là. Plus jeune, on venait ici jouer aux cow-boys et aux Indiens. Je voulais toujours être l'Indien qui protège cet arbre-là. Un vieux chêne qui a vu Jeanne Mance, Paul de Chaumédé de Maisonneuve, les Iroquois. Souvent, Je m'amusais à plisser les yeux et parfois j'arrivais à les voir passer sur le fleuve. Essayez, les gars. Avec l'imagination d'un enfant, on y arrive. Rire de mammouth. Puis, du parc du bois de la réparation, on se dirige vers la maison de son enfance. Il prend le temps de saluer les deux épinettes qu'il a plantées en 1959 avec son père, Roméo, et sa mère, Émilienne. Ces arbres m'ont vu boire du coke, manger des May West, avoir un coup de foudre pour Mademoiselle Laberge, une enseignante de son école primaire. J'ai fumé mes premières cigarettes à leurs pieds. Ils m'ont aussi initié à la philosophie. Et c'est assis entre eux que j'ai lu mon premier livre d'anthropologie, un livre de paléontologie intitulé « Les premiers âges de l'homme ». Si je m'aperçois un jour qu'on les a coupés, ça se peut que je ne m'en remette jamais. Et puis, sur cette rue, l'avenue Broadway, Serge nous raconte que c'est ici qu'un jour il est tombé amoureux des camions. Assis sur le trottoir à les regarder passer, rempli de ciment ou de matériaux de construction, il a fait la rencontre de la transcendance, du plus grand que soi, de l'âme du camionneur. Un je ne sais quoi, un presque rien, pour ne pas dire le grand tout. Pendant que mes chums jouaient au camion, je rêvais d'en conduire. Je m'imaginais parler au CB avec les chauffeurs qui passaient devant moi. Je leur envoyais la main, ils me répondaient. Enfin, certains d'entre eux, j'imaginais les bruits de radio CB, bip, bip, ici Serge Bouchard. Si vous voulez m'embarquer pour un tour, j'ai tout l'après-midi devant moi. Ma mère lit, mon père travaille. 10-4, bip, bip. Sur cette autre rue, une histoire invraisemblable. Le mammouth nous raconte que son frère a jadis volé un vieux moteur d'avion dans une usine de guerre désaffectée. Mathieu et moi, on se regarde en se disant que ce n'est pas l'historien ni l'anthropologue ou l'homme de radio qu'on a avec nous ce matin, mais l'enfant fabulateur qu'il a été. Son frère a-t-il vraiment volé cet engin? Poser la question serait l'affront ultime et reviendrait à douter d'un récit. Ça ne se fait pas. Premier commandement de Serge Bouchard. Plusieurs autres arrêts ont ponctué ce tour guidé de Montréal, le Larry Resto Bar étant le plus surprenant. Ici, j'ai lancé mon premier livre, « Le moineau domestique », paru chez Guérin en 1991. Un restaurant avec des serveuses sexy. Fallait voir la face des journalistes. La culture première qui rencontre la culture seconde, aurait dit Fernand Dumont. Rire de mammouth. D'ailleurs, dans le bureau de ces fous, une photo sur le mur accueillait nos visiteurs. On y voyait Serge au lancement de ce livre, entouré de ses meilleurs amis d'enfance, le politicien Gilles Duceppe, le journaliste Claude Mayotte et le comédien Jean-Pierre Chartrand. Ça faisait son effet. Puis vint ce rituel. Pause solennelle devant la maison qu'il a habitée avec sa première femme. Vous voyez cette fenêtre, les gars? C'est par celle-ci que Ginette regardait lorsqu'elle s'est abandonnée à la mort, tranquillement, avec vue sur l'eau. Mon garçon Serge Alexandre venait de lui dire qu'elle pouvait se laisser aller, qu'il était prêt. Elle l'a écouté. Silence. Long silence. Serge pleure. Ses larmes nous rappellent que le temps enracine le deuil. Faire son deuil est un leurre. Deuxième commandement de Serge Bouchard. En 2017, Ginette est morte depuis plusieurs années déjà, mais pour le mammouth, c'est hier. Ou demain. La présence est dans l'absence. On repart lentement de cette maison du bout de l'île. Un cortège funèbre n'aurait pas été plus sobre. Le mammouth ne parle plus jusqu'au premier feu rouge. Ça va, les gars? Encore aujourd'hui, quand je repense à cette journée, j'ai l'impression qu'on a eu le privilège, Mathieu Fournier et moi, d'accompagner Serge Bouchard au volant de sa machine à voyager dans le temps. L'enfant, l'adolescent, le jeune adulte, toute l'épaisseur historique du mammouth laineux s'est dépliée devant nous, et je ne pense pas m'en être encore totalement remis. Et c'est très bien ainsi. Dernier arrêt, la belle province, rue Sherbrooke, près du stade olympique, communément appelée par Serge « la grande tortue sacrée du boulevard Pie-Neuf ». Je me rappelle avoir proposé à l'équipe quelques bons restaurants dans le quartier Rosemont, tout près. Serge m'a regardé par-dessus ses lunettes, l'œil toujours ironique. Le chauffeur du tour guidé a faim de hot-dog, de frites et aimerait arroser le tout d'un bon Coca-Cola. Attablé à cette pataterie en face du château Dufresne, rue Sherbrooke, Serge nous raconte qu'il a écrit beaucoup de choses qui ont l'air d'être méchantes à l'égard de sa mère, Émilienne, mais il insiste pour dire qu'elles sont véridiques. Elle était insupportable. Elle disait qu'elle n'aimait pas ses enfants. Elle détestait le clergé à un point tel qu'elle avait envie de tuer chacun des curés du Québec. Elle ne fêtait jamais Noël, par principe, sans penser au traumatisme que ça engendrait pour nous, mais au fond, c'était une féministe avant le temps. Cette femme avait envie de liberté dans un Québec prisonnier du passé. Je sais qu'elle nous aimait, mais c'était plus fort qu'elle. Il fallait qu'elle se donne le droit de dire le contraire si elle le voulait. Une question m'habite depuis longtemps. Je l'ai retournée dans tous les sens sans jamais trouver comment la lui poser. Et puis, bon, entre deux bouchées de hot-dogs, au diable la formulation, j'ai du ketchup dans la moustache, ça sortira comme ça sortira. Serge, est-ce qu'il y avait des livres chez toi quand t'étais petit? Sa réponse, des centaines. Nos bibliothèques étaient pleines. Et puis, on a enchaîné sur le Canadien de Montréal, une autre grande passion du mammouth. Il a longuement parlé de la très haute estime qu'il avait pour David Desharnais, un petit gars de Laurier Station, jamais repêché. Ce sont mes préférés, Underdog, avec du chien dans le nez, mais le Canadien n'aime plus les Canadiens français, on dirait. Récemment, en préparation d'un spectacle en hommage à Serge qui s'est déroulé au théâtre de Quatsou à Montréal, je suis retombé sur cette citation tirée d'un texte sur sa mère paru dans le Moineau domestique. Nous avions tous les droits sauf celui d'abandonner l'école, ce qui était fort à la mode dans notre entourage. Mais pour une raison obscure, elle faisait de notre instruction une obligation presque sacrée. Nous aurions tué qu'elle aurait couvert notre meurtre, mais nous aurions laissé le collège qu'elle nous aurait tué. Et c'est à ce moment que j'ai compris la différence entre nous, pourtant transfuges de classe tous les deux. Lorsque j'étais enfant, l'unique bibliothèque qu'il y avait chez moi ne contenait pas de livres, ou si peu. Elle était remplie de cadres avec des photos de famille, de télécommandes, d'un enregistreur vidéo ainsi que de divers objets décoratifs. Quelques livres de psychopop sans plus. Émilienne et Roméo Bouchard avaient un projet d'émancipation pour leurs quatre enfants, Ronald, Christiane, Serge et Michel. Ça n'a jamais été le cas dans ma famille. Et Serge de me dire encore, en avril dernier, « Tes parents ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient comme bagage de vie. Je t'encourage à raconter ça, à magnifier le tout au besoin. Ton père est analphabète, ta mère a reçu peu d'instructions, mais ce sont des histoires légitimes qui méritent d'être mises en récit. Sinon, ce qui les attend, c'est l'oubli. Bientôt, je compte proposer à mes parents, qui sont encore vivants, un tour de ville dans le Drummondville de mon enfance, à la recherche du temps perdu. Qui sait, ça donnera peut-être un épisode de mon émission. À suivre. C'était « J'ai passé une journée avec le jeune Serge Bouchard », un texte de Jean-Philippe Plot, paru à l'hiver 2021-2022 dans le numéro 87 de la revue L'Inconvénient. Thank you. Rage Applying, tout faire pour changer d'emploi. Un texte de Janica Gilham Leblanc, paru le 9 mars 2023 dans Urbania. Le télétravail n'est plus obligatoire et tout le monde se réjouit enfin de retourner travailler au bureau pour vivre ses meetings en présentiel et à 100%, ou peut-être pas. Pour plusieurs, c'est un dur retour à la réalité pré-pandémique. Un horaire surchargé, des tâches et des responsabilités qui dépassent l'entendement, ou simplement un patron overly exigeant avec un petit côté narcissique. Combien de fois dans votre vie avez-vous menacé de quitter votre emploi en prenant un verre au bar en fin de journée, complètement débordé? Imaginez maintenant que vous mettiez vos menaces à exécution et que vous envoyiez des CV avec la même ferveur qu'un finance bro qui distribue sa carte d'affaires aux quatre cartes. TikTok, le berceau des trends qui vous font remettre en question vos conditions de travail, a un nom pour ça, le Rage Applying, que l'on pourrait traduire par « application en série ». C'est une nouvelle tendance qui marche dans les pas du « quiet quitting » et du « career cushioning ». Ça consiste à envoyer son CV à plusieurs endroits différents, et probablement en simultané, tout en recherchant constamment le meilleur poste avec de meilleures conditions de travail et surtout une meilleure paye. Le mot « rage » réfère à l'état de frustration qui pousse le ou la travailleur-travailleuse à aller voir ailleurs. Imaginez, à l'aube d'une possible récession et à l'heure où la stabilité financière n'est plus une garantie pour personne, 80% des Canadiens-Canadiennes sont quand même prêtes à changer d'emploi pour contrer les effets de l'inflation en gagnant un meilleur salaire. Ça fait beaucoup de gens qui tapent « modèle CV » et « comment rédiger une lettre de motivation » dans Google. Faut-il être enragé pour « rage apply » ? Mais qu'est-ce qui peut bien pousser à bout ses employés pour tirer des CV dans tous les sens au point d'en perdre le fil? Ce n'est certainement pas la file trop longue devant la machine à eau après une réunion. Dans le doute, demandez à TikTok. Le hashtag RageApplying vous donnera une idée de ce qui se cache derrière cette volonté brûlante de changer d'employeur. Du temps supplémentaire semi-imposé, de la surcharge de travail ou même un refus de temps off. Bref, une accumulation de frustration à l'égard du milieu de travail et plus souvent même à l'égard de l'employeur. Le verre est tellement rendu plein qu'on est prêt à jeter par la fenêtre la stabilité d'emploi, l'ancienneté et tout le reste. Un seul but, changer de job. Les « rage appliers » y vont donc d'une réponse impulsive comme moyen de vengeance en appliquant partout où il y a une offre, c'est-à-dire à plusieurs endroits différents dans un court laps de temps. Rappelez-vous votre dernière recherche d'appartement. Dès que vous voyez quelque chose d'un brin intéressant, vous vous pitchiez dessus. Peu importe si la salle de bain était dans un garde-robe ou si votre lit double ne rentrait pas dans la chambre. C'est la même chose avec le « rage applying ». Le CV n'est même pas révisé qu'il est envoyé à l'agent-agente de recrutement d'une compagnie un peu obscure pour un poste dont la description de tâche n'est lue qu'à moitié. C'est à cette vitesse que l'applicant-applicante enragé s'y prend pour quitter son emploi, ou du moins pour mettre la pression sur son employeur. Et la loyauté là-dedans? S'il y a bien une chose à propos de la loyauté, c'est qu'elle nécessite une certaine réciprocité. Le ou la travailleur-travailleuse ne se doit plus d'être loyal par principe ou par culpabilité. Dans un monde du travail complètement renversé après une pandémie mondiale, c'est surtout le manque accablant de valorisation et de reconnaissance qui pousse les employés à chercher mieux rapidement. La stratégie du rage applying permet tout de même d'explorer son plein potentiel, qu'elle soit motivée par une colère réelle ou simplement par le désir d'être mieux compensé et ou mieux traité au travail. En pleine pénurie de main-d'œuvre et alors que l'inflation ne semble pas s'essouffler, la stratégie ne peut qu'avantager une personne qui se sentirait au bout du rouleau. Mais attention aux décisions impulsives. Vous ne seriez pas la première personne à regretter un move de carrière mal réfléchi. C'était « Rage Applying, tout faire pour changer d'emploi », un texte de Jonica Gilham Leblanc, paru le 9 mars 2023 dans Urbania.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.